Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Qui aujourd'hui reçoit
José-Alain Sahel.
Professeur José-Alain Sahel, c'est un grand plaisir de vous recevoir. J'avais envie de dire comme à chaque fois, puisque c'est la deuxième fois que nous faisons cette émission ensemble. Et j'ai eu la surprise de regarder que ça fait 3 ans déjà, le temps passe très vite. Et qu'à l'époque, cette émission était porteuse de tout un tas de développements dans le domaine de la vision, puisque c'est bien sûr votre domaine. Et je sens que on n'a pas fini d'épuiser vos projets, qu'ils sont multiples et tapent sur différents aspects pour améliorer cette rétine réticente qui ne permet pas à certains hommes et femmes de voir ce qu'il y a de beau à voir dans la vie, enfin de voir la vie tout court, bien entendu. Vous êtes titulaire de la chaire d'innovation technologique au Collège de France, chère Liliane Bettencourt. Et c'est la première fois, et c'est un grand plaisir, parce que vous offrez donc à qui le souhaite, s'il vient à temps, hein, pour avoir une place, puisque c'est ouvert au public, c'est gratuit, et ça nous permet pendant 18 fois de vous écouter, vous et vos invités, sur le thème de la vision. Donc, une heure à France Culture, formidable, mais vous avez l'occasion d'approfondir les différents points en allant vous écouter donc dans ce somptueux endroit qu'est le Collège de France et que vous méritez bien. Vous êtes un spécialiste de la vision et particulièrement de la rétine, mais vous avez, je dirais bien sûr, tous les aspects de ce formidable organe qu'est l'œil, qu'on ne greffe pas encore, mais on en parlera peut-être plus tard. Votre parcours, donc rapidement, mais il est quand même marqué par cette pérégrination qui va de l'Algérie à Rodez, à Marseille, à Strasbourg. Vous rencontrez le professeur Denis, et puis Harvard, et puis l'Institut de la Vision que vous allez fonder en 2008, et qui va réunir donc une pépinière de médecins, de chercheurs, de start-up, et bien sûr de malades, tout ça en lien avec l'hôpital des 15-20 qui a été votre point d'ancrage. Jusqu'à là, j'ai pas fait de faute?
Non, pas de faute, c'est au contraire. On peut remercier beaucoup d'autres gens dans mon parcours, mais c'est tout à fait exact.
Alors, vous êtes l'ambassadeur des malvoyants, c'est quand même pas rien. Je dirais, ça veut dire quand même que vous êtes investi de cette formidable potentialité de la recherche pour essayer d'analyser pourquoi il y a des troubles de la vue. D'une part par des aspects techniques, mais aussi par une réflexion. Alors, évidemment, on peut faire référence à quelques données de la littérature classique, en particulier du Nouveau Testament, de l'aveugle de Bethsaïde. Ça s'approche un peu avec la position des mains de Jésus qui va rendre la vue. Quand on lit bien dans le détail, en fait, d'abord il met de la salive, il voit, l'aveugle voit mieux, mais après il s'y reprend une deuxième fois pour que le miracle ait lieu. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, qui est assez étonnant, c'est que Jésus demande que le miracle reste caché. Et donc, il fait partie, dans sa somme des miracles, de ceux qui ne doivent pas être, parce qu'une bonne action doit être faite sans ostentation. Alors, j'ai envie de dire, vous faites des bonnes actions, heureusement avec ostentation au sens de la connaissance, du transfert de la connaissance, et ça me semble extrêmement intéressant. Vous êtes vraiment préoccupé par ce que vous vous apprendre les patients et les patientes, et on peut pas s'empêcher aussi, petit trait de littérature, de faire référence à Diderot sur la lettre aux aveugles, à l'usage de ceux qui voient, qui est un point de vue très philosophique, hein, en fait, qui est de voir qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que l'interprétation, comment est-ce qu'on peut connaître la réalité sans forcément voir, encore que elle est sans doute plus vaste et plus sensible quand elle peut être vue.
Oui, on dit trop, on fait un modèle à partir de la situation d'aveugles illustres, ou moins illustres, hein, comme celui de Puiseux, et puis surtout le grand mathématicien donc anglais dont il fait un modèle. Mais en réalité, pour lui, c'est une façon de parler d'une part de la liberté, d'autre part de l'athéisme, mais d'une manière générale des frontières qu'il faut briser pour faire progresser la connaissance. Donc c'est assez exemplaire. J'avais eu l'occasion il y a quelques années, dans le cadre justement de l'université Denis Diderot, de parler d'une nouvelle lettre sur les aveugles. Parce qu'en fait, on peut revisiter une partie des questions posées par Diderot, et tout particulièrement un problème qui avait été posé par un neurophysiologiste anglais qui s'appelait Molineux, le problème de Molineux, qui est la question de savoir si un aveugle de naissance dans l'hypothèse où il retrouverait la vision, serait capable ou non de détecter ou de reconnaître des formes sans avoir besoin de les palper, puisqu'il aurait appris jusque-là à reconnaître les formes en les palpant. Et là, il pourrait recourir au regard et donc savoir si les formes sont indépendantes du sens par lequel elles sont connues ou pas. Et ce problème-là que Diderot aborde de façon approfondie à ce moment-là peut aujourd'hui être revu. Alors à l'époque, c'était le début des révolutions médicales, puisque c'est l'invention, la découverte de la chirurgie de la cataracte par Jacques Daviel, un Français, et c'est le début d'une chirurgie de la cataracte efficace, et se pose la question de ce qui va se passer pour des aveugles de naissance. Et donc la lettre sur les aveugles commence par ce qui se passait dans les salons parisiens, où on interrogeait sur des aveugles de naissance après leur chirurgie. Évidemment, c'était dans l'irrespect total d'une asepsie dont on ignorait même l'existence, et aussi dans l'hypothèse où les gens se mettraient à revoir comme par magie. La médecine n'est pas de la magie.
Mais vous abordez là justement les débuts de l'ophtalmologie chirurgicale qui traite de la partie antérieure de l'œil essentiellement, hein, c'est les problèmes des troubles de la cornée, c'est les chocs, les blessures, et puis celui du cristallin, et puis les interventions donc de la cataracte. D'ailleurs, nous avons eu le plaisir de recevoir à France Culture un éminent collègue qui est professeur Pouliquen, oui, qui nous a parlé donc
un maître,
mais vous renvoyez la balle et lui il est le devant, si je puis dire, avec l'œil antérieur, et vous êtes the back avec et l'un vous renvoyez à l'autre, puisque vous êtes surtout centré sur la rétine. Alors peut-être on revient avant d'aborder les problèmes de greffe de l'œil ou des prothèses cérébrales qui vont quand même décoiffer, c'est le cas de le dire. Revenons quand même à la base pour nos auditeurs. L'œil, appareil photo, pas appareil photo. Comment vous expliquez un peu son fonctionnement ?
Alors, je pense qu'on peut garder l'analogie entre l'œil et un appareil photographique, parce qu'elle permet de comprendre qu'il y a des lentilles qui font converger une image sur une pellicule sensible qui serait la rétine. Mais l'analogie doit s'arrêter là, parce que le traitement de l'information commence de la rétine. La rétine fait partie du cerveau, et à la différence d'un appareil photographique où il y a une image qui est formée, qui est ensuite regardée par un sujet qui observe l'image, et donc dans l'analogie classique, l'œil formerait une image et le cerveau regarderait l'image et l'interpréterait. En réalité, l'interprétation commence au niveau de la rétine et il y a un traitement de l'information qui est fait en parallèle à partir de l'œil jusqu'au cerveau. Il n'y a aucune image qui est formée en réalité, c'est le cerveau qui va concevoir une image à partir du réel. Mais le traitement se poursuit. Donc l'analogie avec l'appareil photographique, elle a l'intérêt d'être pédagogique, elle a l'intérêt aussi de bien faire comprendre que remplacer le cristallin ou réparer la cornée, c'est très important pour que des images nettes se forment sur la rétine. Mais après, il faut se rendre compte que on rentre dans un traitement extrêmement complexe d'informations qui va déterminer les différences de luminosité, les formes, les couleurs, les contrastes. Et tout ça se fait dès le début du cycle de la vision, dès la rétine. Donc remplacer une de ces activités-là du cerveau va impliquer de tenir compte du codage de l'information qui commence dès la rétine.
C'est
donc
l'analogie s'arrête. L'impression que, bon voilà, on a l'optique avec le faisceau antérieur et l'image qui va s'imprimer. La pellicule, la rétine, ça reste quand même compréhensible. Et après, ce que vous dites, c'est la médecine connectée, super connectée, je veux dire, à partir de cette impression rétine.
Alors c'est un gigantesque ordinateur. Il n'y a aucun ordinateur qui est capable de faire ce que fait la rétine aujourd'hui, et encore moins ce que fait la rétine couplée au cerveau, puisqu'il y a un traitement en parallèle sur une mosaïque de points au niveau de la rétine, et chacun de ces points va générer une vingtaine de films en même temps, et que quand je vous regarde par exemple, ça n'est pas une image qui se forme, c'est une vingtaine de points avec sur chacun de ces points 20 films différents, donc des millions de points pardon, et une vingtaine de films pour chaque point, et c'est le cerveau qui va intégrer toutes ces informations là pour donner du sens à cela. En réalité, ce que nous voyons, c'est une illusion qui est corrélée à la réalité.
Est-ce que dans les projets d'intelligence artificielle, le projet en Suisse là sur le brain, est-ce qu'il y a une partie qui concerne la vision?
Alors dans ces projets là il y a donc un projet suisse, enfin européen, et un projet américain qui qu'on appelle le Obama Brain Project. Dans les deux, il y a de la vision. Alors au niveau européen, moins. Nous avons eu accès un peu de façon périphérique à ce projet-là. Par contre, au niveau américain, la vision est considérée comme faisant vraiment partie des fonctions cérébrales. Et d'ailleurs, une des équipes de l'Institut de la Vision et de Paris 5 sont soutenues dans le cadre de ce projet-là pour bien décrypter le traitement de l'information au niveau de la rétine. Ce qui est un très beau modèle pour si on s'intéresse à la connaissance d'une manière générale, mais aussi dans la perspective de la restauration visuelle.
Oui, parce que donc votre message, si on est bien d'accord, c'est le cerveau qui voit.
C'est le cerveau qui voit. Le cerveau est l'organe de la vision. Mais la rétine fait partie du cerveau.
Voilà, c'est la partie visible, les yeux dans les yeux.
La partie accessible. Mon ancien patron Harvard disait, c'est la partie approchable, accessible du cerveau.
C'est là où on voit l'âme du cerveau, peut-être.
Alors, c'est la fenêtre sur l'âme, c'est ce qu'on dit toujours. On peut utiliser l'inconvénient et l'avantage de notre domaine, c'est qu'il a une grande possibilité d'application à des tas de métaphores et des tas d'applications
artistiques. Mais de sensibilité aussi, parce que c'est vrai qu'en regardant le regard de quelqu'un, il y a tellement de choses qui passent. Moi, j'avais une attirance vers le regard des femmes qui accouchent au moment où elles accouchent. Parce que dans ce regard qui n'est, j'ai envie de dire entre guillemets, qu'un regard, vous avez à ce moment-là, à cet instant à peine saisissable, je dirais énormément de choses qui passent sur le plan de l'émotion.
Alors c'est très exact, parce que avant on croyait que c'était l'œil qui portait une lumière sur le monde extérieur, et donc on sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Par contre, là, ce qui est regardé, puisque ce sur quoi notre attention est attirée, nous est indiqué par le regard. Et dans les tableaux, dans la peinture, on voit très bien que la direction du regard dit presque tout en réalité sur ce que le peintre a voulu nous faire entendre et voir.
Alors justement, puisqu'on vous parlait couleur, éclairage, en fait, la base de ces cellules, les cônes, les bâtonnets. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas exactement à les mêmes fonctions, ni le même pourcentage?
Voilà, nous avons la chance d'avoir deux types de cellules qui détectent la lumière. Nous les appelons des photorécepteurs, puisqu'ils reçoivent la lumière, comme leur nom l'indique, et ils transforment cette lumière en signal électrique. Et la chance qu'ont les primates, et les hommes en particulier, c'est d'être capable de voir à de très très faibles atmosphères lumineuses, donc avec ce qu'on appelle les bâtonnets, qui sont capables de détecter un seul photon, donc la quantité minimale de lumière, et à partir de ça, en l'amplifiant par plus d'un million, de déclencher une sensation lumineuse. Mais ils vont saturer à peu près au moment du clair de lune. Et à ce moment-là, les cônes, qui sont la minorité des cellules, à peu près 5%, il y a 130 millions de bâtonnets, quelques millions de cônes, les cônes vont prendre le relais très très vite, dès la lumière des étoiles à peu près, et eux, ils ne saturent pas, donc ils pourraient théoriquement voir jusqu'à la lumière du soleil, dont on sait depuis Platon qu'il ne faut pas la regarder, parce que ça brûle. Mais il y a une capacité de voir à partir d'un seul photon jusqu'à l'intensité maximale qui est celle du soleil, grâce à ces deux systèmes. Alors en plus, les cônes ont comme caractéristique d'avoir une très haute résolution, donc de nous permettre de lire, de reconnaître les visages, les formes particulières, et d'être concentré dans la zone centrale de la rétine, celle qui nous permet justement de lire et de reconnaître les visages. Et le regard dont nous parlions à l'instant, c'est de diriger notre attention sur cette zone toute petite de la rétine qui fait 1 mm de diamètre dans la plus grande définition et 300 microns d'épaisseur, permet de voir ce qu'on appelle la macula. Mmh. Et donc cette zone-là, nous alignons notre regard sur cette zone de la rétine pour examiner le monde avec la plus grande résolution possible.
Et on va avoir aussi un phénomène de 3D.
Alors la trois dimensions, il y a deux parties, une partie qui est l'interprétation, et c'est surtout la petite disparité entre les deux yeux qui ne sont pas tout à fait en train de regarder l'objet sous le même angle, qui va nous permettre d'avoir une vision en trois dimensions.
Donc les yeux doubles et les yeux d'Elsa et le cyclope, en fin de compte un œil unique avec deux yeux.
Alors oui, c'est ça. C'est en fait l'œil unique, c'est le cerveau qui voit tout en même temps. Et il y a ce petit décalage qui montre d'ailleurs que des petites différences d'appréciation sont riches, puisqu'elles donnent du relief.
Mais dans la formation de l'œil, est-ce qu'on a toujours ce même pourcentage de bâtonnets et de cônes, ou est-ce qu'il peut y avoir des modifications?
Alors, selon les espèces, il y a de très très grandes différences, puisqu'il y a des animaux qui sont pratiquement uniquement nocturnes, d'autres qui sont, comme les oiseaux en particulier, complètement dominants au niveau des cônes. Et donc ça, c'est la vision des animaux est un sujet passionnant, avec chacun voit les choses de façon très différente, avec une répartition. Alors si on est finaliste et complètement adapté à leur mode de vie, mais bon, après ça c'est de l'interprétation. Alors chez l'homme, il peut y avoir une dégénérescence de certaines de ces cellules, il y a des maladies qui vont entraîner la dégénérescence des bâtonnets d'abord, puis secondairement des cônes, comme la rétinopathie pigmentaire, et d'autres maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui vont d'abord toucher le centre de la rétine, et ensuite éventuellement ça peut s'élargir un petit peu, mais le reste de la rétine et les bâtonnets ne sont pas trop touchés. Donc c'est selon les pathologies, il peut y avoir une perte cellulaire plus sélective. Au cours du vieillissement, les bâtonnets dégénèrent d'abord, les cônes dans un deuxième temps.
Il y a 285, je ne sais pas comment on peut compter, mais 285 millions de personnes, 2 millions en France, et qui sont malvoyantes, tout confondu, avec toutes les causes de malvoyance qui vont du glaucome aux maladies génétiques, à la presbytie, au cataracte. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la rétine qui, quand même, n'était pas très, très connue, hein, n'était pas très compréhensible ? Elle ne l'est peut-être pas encore.
En réalité, ce qui s'est produit, c'est que un certain nombre de ces causes de malvoyance sont des causes qui sont accessibles à des thérapeutiques. Aujourd'hui, quand on parle de ces millions de personnes, c'est parce qu'il y a des pays où l'accès aux soins est extrêmement limité, alors que ça coûterait très peu d'argent de guérir les cataractes et, par exemple, les conséquences des maladies infectieuses ou des déficits nutritionnels. Mais dans nos pays, la cataracte, le glaucome, s'il est pris en charge tôt, ne représente plus un vrai enjeu pour les patients. Et j'ai été frappé à un moment donné de mon parcours d'ophtalmologiste par le fait que nous étions impuissants sur certaines maladies de la rétine. Et ça a stimulé chez moi la volonté d'aller plus loin, essentiellement parce que c'est très difficile de dire à des patients ou à des familles, en particulier à des parents, qu'on ne peut rien faire. Donc c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser à la rétine. Comme en plus ça fait partie du cerveau, que j'ai toujours eu une attirance pour le système nerveux et les neurosciences, ça m'a permis assez tard dans ma carrière de me plonger dans le monde de la recherche et du coup d'essayer de contribuer à mieux comprendre ces maladies et éventuellement de contribuer à des avancées thérapeutiques.
Alors, José-Alain Sahel, justement, puisque vous parlez de la recherche, vous avez fait des découvertes intéressantes et même passionnantes sur ces facteurs de survie des cônes qui libéraient par les bâtonnets. C'est-à-dire, comment se fait-il que entre ces deux cellules donc fondamentales, l'une pour la nuit, l'autre pour le jour, avec le phénomène des couleurs et d'autres caractéristiques, 3% simplement de cônes, mais il y a un helping cellule, l'un aide l'autre. Et c'est vous qui l'avez mis en évidence, votre équipe ?
Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un constat clinique. C'était très difficile d'expliquer pourquoi les patients perdaient leur vision centrale. Les mutations, au début des années 90, beaucoup de gènes ont été identifiés dans ces maladies, rétinopathie pigmentaire, et ils étaient presque tous exprimés au niveau des bâtonnets. Donc ça expliquait bien pourquoi les patients perdaient leur vision de nuit, mais pas du tout pourquoi ils perdaient leur vision de jour et leur vision centrale. Donc ça m'a interpellé, comme on dit, et ça m'a conduit à formuler plusieurs hypothèses. Et avec un de mes collaborateurs, Sadek Mansour, on a montré par des transplantations et des écocultures qu'il y avait un dialogue entre les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets fabriquaient des facteurs de survie qui étaient importants pour eux-mêmes, mais importants pour les cônes aussi. Et quand les bâtonnets dégénèrent à cause des mutations, les cônes se retrouvent privés de leurs facteurs de survie, qui ne sont plus capables de fabriquer en quantité suffisante et ils dégénèrent. Et avec un de mes collaborateurs, Thierry Léveillard, on a lancé une approche complètement systématique qui nous a permis, il y a une dizaine d'années, d'identifier la protéine.
Oui, c'est ça. Non seulement vous avez eu l'idée de ce mécanisme, mais après vous avez identifié la protéine.
Oui, tout à fait. On a fait d'abord la chirurgie pour démontrer qu'en remettant des bâtonnets, on empêchait les cônes de dégénérer. Puis la biologie cellulaire pour montrer le dialogue entre les cellules. Puis avec Thierry Léveillard, la biologie moléculaire de la génomique pour identifier la protéine. Et donc ce mécanisme qui avait été montré par Otto Warburg sur les cellules cancéreuses s'applique à la rétine. Et donc c'est tout à fait extraordinaire.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Alors, effectivement, José-Alain Sahel, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on parle du glucose, qui est quand même assez simple, on va dire comme ça. Mais vous, ce que vous avez mis en évidence avec Thierry Leveillard, c'est le mécanisme, le récepteur et l'action de ces cellules qui survivent grâce au glucose. Question, est-ce que vous pensez que ce mécanisme est valable partout pour d'autres affections éventuellement ?
Alors Thierry travaille beaucoup actuellement sur, parce que ce gène que nous avons identifié dans la rétine, il existe un paralogue qui est aussi exprimé dans le cerveau, et Thierry travaille beaucoup sur la maladie d'Alzheimer, où il y a aussi des mécanismes assez proches de dialogue entre les cellules. C'est un peu compliqué à expliquer, mais une des formes de la protéine, puisque cette protéine a deux formes, une des formes contribuerait à empêcher l'accumulation de taux, une des protéines spécifiques la maladie d'Alzheimer. Mais ce dialogue entre les cellules est un concept assez intéressant qu'on retrouve dans d'autres modèles cellulaires et dans d'autres pathologies. En l'occurrence, pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de restaurer cette signalisation pour empêcher les patients de perdre leur vision centrale. Donc là, on prépare de façon extrêmement active un essai clinique. Donc il aura fallu 20 ans entre l'idée et l'essai clinique, mais bon, c'est la vie de la médecine, pour essayer...
D'une médecine sérieuse.
Oui, d'une médecine qui s'inscrit dans la durée.
Oui, oui, et puis qui va question-réponse, quoi.
Étape par erreur, réapprentissage.
Voilà.
Et donc ça nous permet d'envisager maintenant d'espérer stabiliser la maladie. Et notre extrapolation, c'est qu'on pourrait retarder la survenue de la cécité de 10 à 20 ans. Ce qui est bon, n'est pas évidemment les évangiles, on ne refait pas voir les aveugles, mais par rapport à dire à des patients qu'on ne peut rien faire et les voir inexorablement perdre leur vision année après année, c'est évidemment quelque chose de très important. Donc Donc si ça se produit, ça sera pour ma vie professionnelle un petit peu la boucle qui sera terminée.
Mais de toute façon, comme toujours, vous allez franchir une étape, reposer des questions et encore avancer. Si c'est pas vous, ce sera vos élèves. Et vous en avez énormément en Europe et aux États-Unis, puisque vous aimez beaucoup les États-Unis. Vous y avez été à Harvard et vous gardez des liens extrêmement tenus pour la recherche dont on va parler tout à l'heure. Donc, on est donc devant cette rétine composée de bâtonnets et de cônes qui se renouvelle. Donc, c'est bien ça qu'il faut. Il faut se laver l'œil de cette idée d'avoir tout une fois pour toutes. Non, en fait, ça se renouvelle. Et vous êtes intéressé, donc, et vous avez prononcé les mots tout à l'heure, mais j'aimerais, José Alain Sahel, que vous détailliez doucement ce que c'est qu'une rétinite pigmentaire, ce que c'est qu'une DMLA.
Alors, une rétinopathie pigmentaire, c'est un ensemble de maladies génétiques qui touchent donc les photorécepteurs, les cellules qui absorbent la lumière et la transforment en signal électrique, donc le début de la vision. D'abord les bâtonnets, donc les cellules responsables de la vision de nuit qui dégénèrent d'abord, puis les cônes avec le champ de vision qui se rétrécit, une vision en tunnel et à terme une perte de la vision centrale. Donc ça touche en France à peu près 40 000 personnes à tous les âges de la vie et il faut une dizaine d'années, une vingtaine d'années pour que la maladie évolue. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est une maladie qui est liée au vieillissement, comme son nom l'indique, au cours de laquelle les cellules centrales de la rétine, principalement les cônes, et les cellules de soutien sous la rétine, qu'on appelle épithélium pigmentaire, vont progressivement subir une accumulation de débris. On a parlé tout à l'heure du renouvellement des cellules dans la rétine. Quand les cellules se renouvellent, il faut éliminer les débris. Et quand les débris ne sont pas éliminés complètement, il y a une accumulation de dépôts qui se produit dans la rétine. Comme ce qu'on
c'est
a
ça les drusènes ?
C'est les drusènes, voilà. C'est des petits cristaux.
C'est des petits cristaux qui se déposent.
Des petits cristaux qu'on voit en dessous. Et ensuite, l'organisme va réagir contre ces drusènes avec une réponse inflammatoire pour s'en débarrasser. Malheureusement, cette réponse peut entraîner des complications par elle-même, comme la formation de vaisseaux anormaux.
Alors justement, donc dans cette forme humide, hein, on en parle, qui représente 15% à peu près des situations, il y a quelque chose qui fait que les vaisseaux se développent trop.
Oui, il y a donc à cause de cette accumulation de débris, il y a une réponse inflammatoire importante et en parallèle, le tissu stimule une prolifération de vaisseaux anormaux. Ces vaisseaux sont perméables, donc ils entraînent un œdème et ils peuvent saigner aussi et ça entraîne une baisse très rapide de la vision. Fort heureusement, depuis maintenant une douzaine d'années, la signalisation sous-jacente, le facteur sous-jacent à cette prolifération des vaisseaux et à leur perméabilité a été identifié. C'est un facteur vasculaire qui est aussi présent d'ailleurs dans les cellules cancéreuses et qui encore une analogie avec le cancer, même s'il ne faut surtout pas penser que ces maladies soient des cancers, en aucun cas. Donc cette protéine a été identifiée, le récepteur a été identifié, des anticorps contre ce récepteur et contre cette protéine ont été mis au point, et ça nous permet aujourd'hui de retarder considérablement la survenue de la malvoyance et de la cécité dans cette maladie.
Mais là, il faut injecter, il faut apporter
Il faut injecter tous les mois ou toutes les 6
semaines. L'inhibiteur du VEGF-alpha. Ouais. Par une injection dans l'œil.
Dans le vitré,
c'est ça.
Dans l'œil. Dans l'œil. Donc ça, c'est fait maintenant en routine. On en fait des centaines et des centaines chaque semaine à l'hôpital.
Donc, par contre, vous disiez donc une forme humide qui va avec cette prolifération donc vasculaire que vous essayez de contrecarrer par l'administration des inhibiteurs de la protéine qui stimule les vaisseaux, et puis la forme sèche qui elle est beaucoup plus chronique, elle s'installe sur des années.
Voilà, donc il y a une involution du tissu. Cette accumulation de débris va contribuer à ce que les photorécepteurs soient mal oxygénés. Eux-mêmes, ils ont entamé une dégénérescence dont on pense que la toxicité cumulative de la lumière pourrait être un des facteurs. Et au cours des années, il va y avoir une involution du tissu rétinien progressif, ce qu'on appelle la forme atrophique, avec accumulation de ces débris. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs médicaments en essai clinique, en phase 2, phase 3, donc des phases intermédiaires d'essai clinique, dont nous n'avons pas les résultats. Donc il y a quelques espoirs thérapeutiques.
Donc il faut que je vous réinvite dans quelques temps.
J'espère, ça sera un grand plaisir de vous revoir de toujours.
Pour savoir, en tous les cas, si effectivement un traitement médical permet de ralentir. C'est ça l'objectif.
C'est l'espoir que nous avons. Alors les phases 2 sur l'un de ces médicaments sont prometteuses, mais il faut toujours se méfier de l'extrapolation entre les phases précoces des essais cliniques et les phases de validation.
Alors, on dit que 25% des personnes âgées de plus de 75 ans ont une forme de DMLA, de dégénérescence maculaire, oui, centrale, alors, une tache au milieu de la vue.
Alors, en réalité, ils ont des dépôts qui se sont accumulés, ils ont des signes de vieillissement de la rétine. Sur ces 25%, une partie seulement a vraiment des troubles de la vision. Le premier trouble, c'est souvent un problème d'adaptation au changement de luminosité, mais ça serait vraiment exagéré de dire qu'ils sont malvoyants sur ces 25%. Une proportion d'entre eux est vraiment malvoyante, voire très affectée par la maladie. Et ça continue avec l'âge, parce qu'à 75 ans, donc c'est à peu près 25%, à 90 ans, c'est 60% de la population qui porte ces signes de vieillissement de la rétine.
Et vous pensez qu'il faudrait intervenir en prévention systématiquement dans ces cas-là, si on a un code à proposer?
Alors aujourd'hui, ce qui a été démontré assez clairement, c'est qu'une supplémentation en vitamines antioxydantes et donc essentiellement vitamine C, vitamine E, enfin un cocktail avec un certain nombre d'antioxydants peut ralentir de 20% l'évolution de la maladie lorsqu'elle a débuté. C'est une immense étude américaine qui a été conduite il y a une dizaine d'années qui a donné ses résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut le recommander à tout le monde, c'est au stade précoce. Une fois qu'on aura bien compris les mécanismes de dégénérescence tardive, c'est possible qu'on puisse proposer des approches plus immédiates, plus précoces de la maladie. Aujourd'hui, je crois que c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas d'armes pour empêcher cette maladie de se développer.
Et lorsqu'on donne, vous avez donné ce traitement, quels sont les résultats sur le plan de la vision? Qu'est-ce qui va mieux? Les gens peuvent se déplacer?
Alors pour la forme dite humide avec les anti-VEGF, 20 à 30% des patients ont même une amélioration de leur vision par rapport à avant l'injection et 90% ont une stabilisation de leur vision au prix d'injections itératives. Après, il y a des patients qui finissent par échapper au traitement d'emblée ou au cours du temps, mais bon, c'est une efficacité sans précédent. Dans les pays où il y a des registres exploitables d'informations, comme l'Angleterre, ça a réduit de 50% la cécité par dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc le chiffre, il est clair. La moitié en moins d'aveugles déclarés liés à la dégénérescence maculaire liée à l'âge grâce à ces traitements.
Donc c'est un vrai problème de santé publique. Là, vous appeliez la rétinopathie pigmentaire comme deuxième maladie de la rétine, mais en termes de nombre de gens que ça touche, ça représente combien?
À peu près 40 000 personnes en France, 1,5 million à 2 millions dans
tout le monde. Confondu.
Tout âge confondu, oui.
Et donc là, on a un rétrécissement un peu de...
Alors c'est d'abord un rétrécissement du champ de vision, et puis un tunnel qui après devient un point, puis éventuellement plus rien.
Donc c'est inexorable.
C'est intraitable. Heureusement, il y a des patients qui restent très stables très longtemps, mais ça n'est malheureusement pas la majorité.
Qu'est-ce que vous diriez, il faut faire un contrôle systématique à un certain âge, comme pour d'autres... thème de la santé, ou alors il faut attendre d'avoir quelque chose?
Non, c'est pour le dépistage du glaucome, c'est extrêmement important de le dépister vers la quarantaine, parce qu'un glaucome traité précocement ne rend pas aveugle et peut être parfaitement pris en charge. Donc ça fait partie.
Mais le glaucome, ça c'est encore autre chose.
Mais c'est puisque non,
mais c'est pour l'expliquer.
Alors c'est une autre maladie, c'est une maladie nerf optique avec une pression élevée. C'est là que le dépistage a le plus d'intérêt. Dans la dégénérescence maculaire à l'âge, c'est bien de dépister tôt l'accumulation de débris pour proposer ces suppléments de vitamines, par exemple, et aussi une protection solaire, puisque l'effet de la lumière est quand même sinon établi, du moins très probable. Après, c'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités thérapeutiques à ce stade. Sur la rétinopathie pigmentaire, aujourd'hui...
Oui, mais ma question, elle est très basique. Depuis peu, tout le monde reçoit à 50 ans comme quoi il faut faire un test pour dépister le cancer du côlon.
Oui.
Ma question est, José Alain Salel, est-ce que vous pensez qu'il faut, vous proposeriez à 70 ans, 75 ans, je ne sais pas, à un moment donné, un examen ophtalmo pour dépister? Alors, c'est ça la question.
Je pense que ça serait une bonne chose à condition de ne pas paniquer les gens, parce que on va trouver chez énormément de gens des anomalies au niveau de l'œil, et parfois on va arriver en urgence à l'hôpital des gens à qui on a dit qu'ils ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais qui ont 10 dixièmes et qui ont juste quelques dépôts. C'est un peu comme si on faisait un scanner à tout le monde, on trouverait des tas de choses.
C'est ce que j'allais dire. C'est que avec les moyens qu'on a de plus en plus, on va avoir plus de choses vues que de choses interprétées. Encore faut-il des gens qui ont la tête sur les épaules pour donner les bonnes lectures.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut mettre ça en proportion. C'est on va dire, je dirais pas normal, mais naturel d'avoir un vieillissement de ces tissus. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de conséquences visuelles, il faut pas considérer ça comme une pathologie.
Mais n'empêche que, j'insiste, une prévention, un dépistage systématique serait peut-être à être étudié.
Oui, ça serait bien. En plus, il y a le problème de la conduite automobile qui est quand même... mais qui ne concerne pas que les personnes âgées.
Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août.
Vous êtes toujours avec le professeur José Sahel. Et vous avez, en collaboration avec le quotidien des médecins, la possibilité de lire sur le site les réponses qu'il a fait aux questions des collègues qui ont bien voulu nous écrire, puisque vous savez que c'est le jeu de cette collaboration entre France Culture et le quotidien du médecin. Bien sûr, nous avions les yeux bleus d'Edith Piaf. Dites-moi, est-ce que on va pouvoir choisir la couleur des yeux?
J'espère que non. Je crains que oui, mais j'espère que non.
C'est multigénique.
C'est multigénique, mais malheureusement, c'est de mieux en mieux compris et on peut imaginer qu'il y ait des tentations de ce type dans l'avenir. Donc j'espère qu'on ne pourra pas le faire, mais aujourd'hui on peut tricher avec des lentilles, mais je crains que l'eugénisme atteigne ces domaines qui sont quand même assez futiles.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Enfin, il y a toujours une réflexion parallèlement à toutes ces avancées, mais les avancées, c'est pas sur ce terrain-là, c'est vraiment sur le terrain de base des rétines artificielles et d'autres moyens que nous allons voir ensemble. La rétine artificielle, alors c'est quoi exactement, José Alain Sahel?
Alors le concept de la rétine artificielle, il vient du fait que la fonction initiale de la rétine, c'est de transformer la lumière en signal électrique. Donc l'idée, c'est chez les patients qui ont perdu les cellules qui sont capables de transformer la lumière en signal électrique, donc les photorécepteurs, de les remplacer par des photorécepteurs électriques. Donc en l'occurrence, une caméra qui va capter les images, va ensuite transférer l'information à un petit ordinateur de poche qui va choisir là-dedans les informations les plus pertinentes. Il a été programmé pour cela. Et ensuite, ces informations sont envoyées par un petit émetteur qui est sur les lunettes vers une antenne qui est sur l'œil. Et cette antenne envoie par l'intermédiaire d'une série de câbles vers une puce qui est sur la rétine des informations qui sont codées. Donc aujourd'hui, les premières rétines artificielles qui avaient été développées par...
Donc c'est une puce, en fait.
C'est une puce électronique qui est connectée par toute une série de juste une chaîne à une caméra. Alors aujourd'hui, c'est comme ça que c'est fait. Avec la génération actuelle, on vient de passer à... Donc c'est une technologie au départ essentiellement américaine. La manœuvre, c'est une technologie aussi française, puisqu'on a, on a pu développer ça aussi en France maintenant. Et dans les mois qui viennent, il y aura une nouvelle technologie qui va être fonctionner avec des photodiodes. Donc il y aura une transformation directe de la lumière en signal électrique avec un projecteur qui est en train d'être mis au point à l'Institut de la Vision pour envoyer les informations sous forme de lumière vers une puce qui, cette fois-ci, ne sera pas connectée avec des câbles, etc., mais sera directement implantée. Si tout va bien, ça devrait être testé en début d'année prochaine.
Mais est-ce que c'est la course au nombre d'électrons? Alors c'est plus que c'est la qualité des électrodes, c'est... l'absence de superposition, etc.
Alors c'est tout ça à la fois, c'est le nombre d'électrodes, parce qu'évidemment, on parle de millions de photorécepteurs, là on parle de quelques centaines, mais c'est aussi l'intervalle entre les photos, entre ces électrodes, leur qualité, et surtout l'interface avec les neurones. Donc il y a un énorme travail de compréhension du codage de l'information visuelle, et un travail qui a été fait à l'Institut, c'est de développer des caméras qui fonctionnent comme la rétine, et non plus comme des caméras classiques, c'est-à-dire qui vont détecter les changements, et vont envoyer une information qui est la plus proche possible du langage de la rétine, directement. Donc, au lieu d'avoir l'analogie classique avec les appareils photographiques, nos caméras actuelles sont des appareils photographiques améliorés, avec un traitement d'information derrière. Là, il s'agit de traiter comme le fait la rétine, en détectant les changements. Donc, c'est tout ça qui est mis en place au niveau de cette technologie de la rétine artificielle, avec des premiers résultats, depuis quelques années déjà chez les patients, très encourageants. Mais évidemment, c'est une vision qui reste assez sommaire. Il y a beaucoup de marge de progression. Et il faut se rappeler, on l'a dit au début, que c'est le cerveau qui voit. Et en réalité, c'est donc le cerveau qui apprend à utiliser les informations nouvelles qui lui sont transmises par ces puces électroniques.
Mais là, récemment, il y a eu au CHU de Nantes, je crois que vous étiez en lien, il y a eu justement l'implantation par Pixum Vision de nouveaux puces avec des céramiques, des polymères, enfin le matériau même est en train d'évoluer.
Alors le matériau a évolué, c'est donc Pixum, c'est cette boîte dont je parlais, qui est issue de l'Institut de la Vision, donc avec 150 électrodes, donc la première a été faite à Nantes, la prochaine va être faite dans mon service à Paris, et c'est un essai multicentrique qui est en train d'être fait, et pour tester les matériaux, tester la résolution avec les électrodes et ces nouvelles caméras en même temps. Donc c'est plusieurs avancées technologiques en même temps qui sont testées.
Parce que j'avais cru qu'il y avait des puces qu'on mettait devant les rétines, d'autres qu'on met derrière la rétine, d'autres qui ont besoin de la caméra qui est portée sur les branches de lunettes, et d'autres peut-être un jour pas.
Est-ce alors que voilà. C'est bien ça? Donc aujourd'hui, les puces qui sont implantées sont sur la rétine, au niveau des cellules ganglionnaires, à la fois Second Sight, Argus et Pixium. La technique rétine à implant, c'est sous-rétinien, c'est à la place des photorécepteurs, mais il faut un câble, donc c'est assez compliqué pour alimenter ça parce qu'il faut installer un câblage qui, donc c'est une chirurgie assez longue. Et la technologie dont je parle, qui devrait être développée, enfin qui est en train d'être développée, qui devrait être testée bientôt, c'est sans fil et c'est sous la rétine, donc à la place des photorécepteurs.
Est-ce que le mot de prononcer une caméra sans image, c'est quelque chose qui vous interpelle?
Alors ça me convient tout à fait de parler de caméra sans image, puisque l'image, ça renvoie plutôt à l'imagination et ça renvoie au cerveau. Donc la caméra ne fait qu'envoyer des informations. Et c'est le cerveau qui en fait des images.
Et dans les implants, on a parlé d'une recherche sur les diamants. Sur le diamant?
Oui, alors la raison d'utiliser le diamant, c'est que le diamant c'est du carbone et donc c'est complètement biocompatible. Aujourd'hui, la plupart des prothèses que nous développons sont soit en céramique, soit métallique. Donc les interfaces avec le tissu neuronal ne sont pas forcément idéales. Donc il y a tout un travail en cours avec l'ESIE, une école d'ingénieurs, avec le CEA, pour des prothèses en diamant qui devraient avoir une meilleure interface avec le tissu. Ça indique simplement qu'il va y avoir des générations successives. On travaille aussi, c'est Serge Picot qui travaille sur tout ça chez nous, à des électrodes en trois dimensions, pour être le plus près possible des neurones plutôt que d'avoir des électrodes planes qui vont stimuler plusieurs neurones à la fois.
Les noces de diamant, donc c'est pour s'offrir la petite puce qui vient à un certain âge.
Alors c'est moins cher parce que là ce sont
c'est
du diamant artificiel.
C'est combien actuellement
Non, la prothèse est chère, mais le matériau est bon marché. Le matériau c'est du diamant de synthèse. Non, aujourd'hui les prothèses coûtent assez cher, mais il faut voir toute l'électronique qu'il y a derrière. Il faut voir qu'avant qu'un implant puisse être implanté chez un patient, il y en a des dizaines qui ont été éliminées parce qu'il faut vérifier leur qualité pour que dans la durée.
Et vous savez à peu près dans le monde combien de personnes c'est? Vous avez des registres de ce qui se passe dans ce type d'implant?
Aujourd'hui, on est à quelques centaines. La première étude à laquelle nous avons participé, c'était une trentaine de patients dans le monde, 32 patients exactement, qui avaient été implantés. Là, dans le cadre du forfait innovation sur l'implant Second Sight, on a obtenu l'autorisation pour 36 patients. On en est à plus de la moitié. Sur les implants, aujourd'hui, je crois que sur la Argus, il doit y avoir à peu près 200 implants qui ont dû être implantés, peut-être plus, je n'ai pas le chiffre exact. Et sur Opixium, donc on en est maintenant une douzaine, et ça continue, puisque là, ça va, on est encore dans le stade de l'expérimentation quand même.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Nous sommes avec José Sahel sur le nec plus ultra de la recherche dans la vision avec les rétines artificielles. Mais on peut encore peut-être aller plus loin, puisque vous avez dit que la rétine, c'est le cerveau. Et est-ce qu'on peut agir sur la zone visuelle du cerveau?
Alors c'est une ambition de stimuler le cerveau qui existe depuis longtemps. Les premiers essais ont été faits dans les années 60 et ont été assez catastrophiques, avec des implants qui étaient des électrodes implantées dans le cerveau. Ça avait été assez sensationnel. Il y a un livre qui raconte l'aventure d'un des patients qui s'appelle Search for Paradise, qui décrit le drame de ce patient qui a cherché ça.
Drame parce que quoi? Il y a des complications infectieuses.
Parce qu'il y avait des complications, parce qu'il voyait très peu et qu'il était obligé de continuer à utiliser ce système. Aujourd'hui, évidemment, la neurochirurgie a fait des progrès considérables et aussi les interfaces ont fait des progrès considérables, donc ça redevient une aventure envisageable. Pas plus tard que cet après-midi, avant de venir, j'étais avec Alim Benhabib, donc celui qui a mis au point la chirurgie du Parkinson.
Qui était aussi notre invité à France Culture. On peut retrouver tout ça sur nos sites.
Voilà, donc avec on était ensemble il y a à peine une heure et demie pour discuter justement de ce projet que nous essayons de mettre au point pour développer des implantations sur le cerveau chez les aveugles. Il y a aussi un projet analogue.
Vous pensez qu'une stimulation sur une zone défini de l'air visuel pourrait entraîner quelque chose?
Alors, on en a la preuve, parce que les expérimentations qui ont échoué de précédentes montrent que ça peut entraîner des sensations lumineuses. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a perdu tout le traitement de l'information qui a lieu depuis la rétine, jusque, si vous voulez, le système fonctionne avec des étapes successives. Là, on court-circuite tout ça.
On va
directement à la fin. Donc, il faut se débrouiller pour rétablir une partie de ce traitement d'information. Mais aujourd'hui, il faut pas manquer d'ambition par rapport à ça. Simplement, il y a beaucoup d'étapes technologiques, scientifiques aussi. Et puis, ce dont il faut se souvenir, c'est que là, on rentre au plus près de la conscience du sujet, du patient, et qu'il va falloir déterminer si à un moment donné, cette intrusion ne va pas perturber d'autres équilibres. Parce qu'un aveugle a appris à utiliser d'autres sensorialités pour voir le monde, pour percevoir le monde. Donc quand on revient directement sur son cerveau, il va lui falloir intégrer cette expérience dans son vécu et dans sa façon de voir le monde.
La greffe de l'œil, c'est complètement loufoque.
Alors la greffe de l'œil, c'était une idée délirante qu'avait eue le fondateur de la Société française d'ophtalmologie, qui s'appelait Paul Chibret, à la fin du 19e siècle.
Ça avait été un échec
cuisant. C'était un des fondateurs, enfin cette famille-là était fondatrice de la société qui a porté ce nom, qui est toujours vivante, et fort heureusement. Mais c'est donc ça avait évidemment échoué, ça a été rapporté. L'idée a été reprise depuis par un consortium international dont nous faisons partie, qui est piloté par l'université de Pittsburgh.
Donc vous y croyez?
Alors je crois qu'on va beaucoup apprendre. Il y a quelques mois, j'avais été interviewé par le magazine Science sur ce. Ils ont fait un article là-dessus qui s'appelle Second Sight d'ailleurs, et j'avais raconté une anecdote, c'est que il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a une jeune étudiante très brillante qui était venue me voir en me disant qu'elle voulait faire sa thèse dans mon laboratoire. Elle voulait la faire avec moi, mais elle voulait travailler sur la greffe de l'œil. Et je lui avais dit à l'époque que c'était pas un sujet de thèse, que ça pouvait être un sujet pour deux ou trois générations, mais que ça serait pas un sujet de thèse en 3 à 4 ans, puisqu'en France, on est obligé de faire les tests très vite. Elle a quand même fait sa thèse avec moi. Elle a fait une très belle thèse sur les cellules souches, mais elle a été très déçue de ne pas pouvoir travailler sur ce projet, et elle a quitté la science. Donc elle fait aujourd'hui de très beaux bijoux. C'est une designer de bijoux. Et j'ai raconté cette anecdote en disant que je m'étais peut-être trompé, parce qu'effectivement, on y vient aujourd'hui. Il y a une équipe à l'Institut de la Vision qui travaille sur la régénération du nerf optique avec Alain Chédotal. Il y a un consortium international qui s'est fait entre Paris, Pittsburgh, Stanford, Boston, sur un projet un peu comme aller sur la Lune. Donc ce projet en soi, il faut surtout pas donner l'impression aux auditeurs que
non,
ça va marcher,
mais ça
ouvre des perspectives que les gens qui ont lancé la greffe de main, les greffes de visage ont ouvertes. Mais simplement là, on est sur la greffe de cellules neuronales.
Depuis notre dernier entretien, il y a justement pas mal de nouveaux. D'une part, vous me parliez à ce moment-là, il y a 3 ans, des projets d'utilisation de cellules souches qui pourrait justement régénérer un certain nombre de peut-être de cônes et de bâtonnets, ou bien la possibilité qui a été utilisée par les Japonais, de nouvelles cellules souches, ce qu'on appelle les IPS. Donc, et puis, je vous donne tout en vrac pour que vous me répondiez. Et puis, la dernière découverte de CRISPR-Cas9, à savoir, est-ce que vous allez utiliser ces outils qui permettent de couper un gène ou de le remplacer, enfin qui permettraient, on va dire, de le faire. Enfin voilà, un peu tout ça sur cette nouvelle approche biologique.
Alors je vais vous répondre d'abord sur la thérapie génique, ensuite sur les cellules souches. Alors sur la thérapie génique, aujourd'hui, il y a de très nombreux essais cliniques en cours, donc plusieurs chez nous, sur des maladies où nous essayons de réintroduire le gène déficient pour corriger le phénotype, donc l'expression de la maladie. Donc c'est très prometteur, c'est compliqué parce que, comme le principe, c'est toujours d'abord de ne pas nuire aux patients, nous commençons toujours chez des patients à des stades très avancés de la maladie, où finalement, pour démontrer la sécurité, on prend peu de risques, mais il y a peu de choses à gagner aussi, parce que la plupart des cellules ont déjà dégénéré. Mais il y a un certain nombre de C qui ont atteint déjà la phase 3, donc il y a un essai, une phase 3 qui a été terminée, donc une validation sur cette phase 3. Nous, un des essais de thérapie génique issu de l'Institut de la Vision est en phase 3 actuellement, 3 centres américains, 4 centres européens, donc avec des développements
multicentriques,
donc on a dépassé la phase de preuve de concept pour la démontrer à sécurité. Maintenant,
vous visez combien de patientes?
Alors on vise 2 fois 36 patients, 72 patients sur une maladie qui entraîne la cécité en quelques mois. Donc on espère pouvoir démontrer la possibilité de prévenir la cécité sur une maladie génétique.
Donc là, qu'est-ce que vous faites?
Réintroduction du gène normal.
Par un virus inactivé.
Inactivé qui va faire exprimer le gène dans les cellules malades pour empêcher leur dégénérescence.
Mais vous n'aurez pas enlevé le gène.
Voilà. Alors, comme dit Alain Fischer très très élégamment, c'est comme si vous avez une voiture où il y a un phare qui marche pas et vous rajoutez un phare à côté. C'est-à-dire que vous laissez le phare cassé et vous en rajoutez un autre. Alors la révolution qui est en cours avec CRISPR-Cas9, donc Cas9, avec la possibilité de donc d'éditer le génome, c'est-à-dire quand vous faites copier et couper, c'est-à-dire vous avez un texte avec des erreurs, vous enlevez le mot qui est pas le bon et vous remettez le bon. Donc c'est très prometteur. On sait aujourd'hui que cette technologie n'est pas encore complètement mature pour des essais cliniques, mais elle est extrêmement prometteuse. Mais beaucoup de groupes sont là-dessus, donc évidemment chez nous, mais aujourd'hui, le nombre de groupes qui sont là-dessus, il y a un effet de mode aussi qu'il ne faut pas méconnaître. Mais c'est très prometteur parce que là, du coup, on pourrait aussi attaquer des maladies où on peut supprimer l'activité du gène malade et pas seulement ajouter une activité complémentaire. Donc, dans ce qu'on appelle les maladies dominantes, où il y a un gène qui est toxique, et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour empêcher ce gène d'être toxique.
Il y a peut-être cette possibilité.
Alors, dans la rétine pigmentaire, par exemple, il y a des mutations sur la protéine qu'on appelle la rhodopsine, qui capte la lumière au niveau des bâtonnets. Parfois, cette protéine s'accumule et devient toxique, et aujourd'hui, on ne sait pas empêcher ça. Il y a des gens qui ont tenté de le faire, mais ça n'a pas réussi. Donc, cette approche par CRISPR-Cas9 pourrait peut-être permettre d'aborder ces maladies-là.
Mais vous parlez de la rhodopsine, par exemple. On sait la fabriquer, enfin j'allais dire, à partir d'algues.
Alors ça, c'est une autre approche. Là, on vient sur une autre approche, qui est ce qu'on appelle l'optogénétique, c'est-à-dire que toutes les espèces, enfin les algues, les bactéries, beaucoup d'espèces ont des protéines qui détectent la lumière et qui sont couplées à une activité électrique directement. C'est-à-dire, à la différence de ce que j'ai décrit dans la rétine, où il y a une absorption de la lumière, puis la génération d'un signal électrique amplifié, là, il y a la génération directe d'un signal électrique. Et donc, il y a une idée qui a germé depuis quelques années, c'est d'utiliser ces protéines venant des algues ou des bactéries pour les faire exprimer par thérapie génique dans la rétine et pour rendre des cellules de la rétine sensibles à la lumière directement. Donc là, à l'Institut de la Vision, on a 5 projets en cours là-dessus, dont au moins l'un d'entre eux devrait arriver en clinique, si tout va bien, d'ici l'année prochaine, pour essayer chez des aveugles de créer une rétine artificielle biologique en faisant exprimer ces protéines sensibles à la lumière. Le seul problème... Enfin, il y a 2 problèmes. Un problème, c'est que ce sont des protéines étrangères à l'homme, donc il faut vérifier qu'elles sont bien tolérées. Le deuxième, c'est qu'il faut beaucoup de lumière, parce que dans la rétine normale, vous avez une amplification par 1 million du signal. Là, il n'y a pas d'amplification, donc il faut envoyer beaucoup de lumière. Donc on est en train de fabriquer, avec aussi une des start-up de l'Institut, des lunettes qui envoient la lumière en intensité suffisante avec le bon codage. Mais ça, c'est des approches qui sont dans la thérapie génique. Et d'ailleurs, mon cours au Collège de France demain matin à 10h30, c'est sur ça.
Rendez-vous.
C'est sur ces approches-là. Par contre, quand on veut passer au remplacement cellulaire, on a abordé la rétine artificielle, là ce sont les cellules souches. Alors là, il y a 2 sources de cellules souches, il y a des cellules dites embryonnaires, avec toutes les controverses mal placées éthiques sur ce problème-là, ou alors les cellules dérivées du patient lui-même, les cellules reprogrammées, ce qu'on appelle les IPS, technologie qui a été découverte donc au Japon par Yamanaka, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années là-dessus, et aujourd'hui, il y a des essais cliniques qui commencent à être développés. Alors il faut savoir que l'essai japonais a été arrêté parce que c'est très difficile à partir des cellules d'un patient lui-même de vérifier qu'elles sont complètement sûr, on porte tous des mutations, des anomalies, et amplifier ces cellules comporte certains risques. Aujourd'hui, ce qui est en train de se développer au niveau international, ce sont des banques de cellules venant de donneurs qui sont complètement caractérisées au niveau de leur génome pour vérifier qu'ils ne sont pas porteurs d'autres pathologies ou d'autres risques, par exemple de cancérisation. Et donc, on sait aujourd'hui que, par exemple, en France, avec quelques dizaines de donneurs, on pourrait couvrir déjà 30 à 40% de la population. Donc, on pourrait avoir sur les étagères les cellules prêtes à être implantées à terme. Donc, il y a tout un travail en cours.
Mais ça, ce sont des cellules souches reprogrammées
ou cellules souches reprogrammées.
Donc, des IPS.
Des IPS. Alors, il y a aussi les autres, les ES. Les deux existent aujourd'hui. Nous, on a un essai clinique en préparation avec ISTEM, avec Marc Péchanski, sur les ES, donc les cellules venant d'embryons pour être implantées dans des formes de rétinopathie pigmentaire. Mais à terme, on imagine très bien d'avoir une banque de cellules reprogrammées venant de personnes qui ont accepté de donner des échantillons de peau pour fabriquer des cellules de tout type, d'ailleurs, y compris des cellules rétiniennes.
José Alain, ça aide, là, on a brossé quand même des approches passionnantes, mais qui sont les unes qui vont faire fabriquer la protéine manquante ou le mécanisme qui fait défaut, les autres pour remplacer éventuellement les cellules, les photoréceptrices, les autres pour modifier un gène par un virus et peut-être inactivé bien sûr, les autres en introduisant des cellules souches, qu'elles soient d'origine embryonnaire ou d'origine adulte retransformée. Et puis, vous avez évoqué cette stimulation de l'air visuel, je dirais du cerveau directement, comme moyen. C'est quand même, c'est fabuleux, toute cette diversité d'approches pour le même objectif.
Oui, c'est ça qui est aujourd'hui enthousiasmant, c'est que il y a un objet unique de connaissance pour nous, les chercheurs et les médecins, qui est la vision. C'est en même temps notre façon de connaître le monde, donc c'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler là-dessus. Et aujourd'hui, il y a une espèce de convergence de toutes les technologies, qu'il s'agisse de l'électronique, de l'informatique, des biomatériaux, des sciences cognitives, de la médecine régénératrice, qui permettent d'envisager des solutions. Mais nous sommes au tout début du chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément d'étapes avant de pouvoir vraiment prétendre rendre une vision utile, je ne parle même pas d'une vision normale, à des personnes qui l'ont perdue. Et derrière tout ça, c'est le sujet qui va être l'objet de notre attention et qui va être le sujet de sa propre vie, c'est comment réintégrer ses sensations dans sa perception. Comment en faire une source d'information utile sur le monde.
Est-ce que du côté du verre correcteur, parce que la vision c'est ça aussi, est-ce qu'il y a des progrès qui sont envisagés, qui sont en cours?
Il y a plusieurs progrès en cours. Il y a d'une part les verres filtrants aujourd'hui pour filtrer la lumière toxique. Il y a des progrès qui ont été faits aussi en
lumière bleue,
donc il y a eu un gros travail qui a été fait qui a abouti à générer des lunettes qui filtrent cela. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les lunettes informatives, c'est-à-dire des lunettes qui vont générer qui sont aujourd'hui très utilisées dans la réalité augmentée, réalité virtuelle, donc pour traiter l'information et permettre de montrer sur les lunettes à la personne des informations qui sont utilisables par un handicapé. Donc on a travaillé depuis des années à des lunettes qui permettent de pallier certaines conséquences du déficit visuel, de projeter dans la zone qui voit encore des informations utiles.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de porter des lentilles la nuit pour corriger la vision du jour ?
Alors là, ça a été proposé dans la myopie, c'est pour agir sur la courbure de l'œil dans la croissance. Donc ça a été proposé de porter des lentilles pour empêcher une croissance excessive de l'œil et lutter contre la myopie. Ça reste à démontrer. C'est une piste intéressante, mais ça reste à démontrer.
Ça reste à démontrer. Est-ce qu'on peut dire que dans toute cette avancée technique et passionnante dont vous nous faites part, José-Alain Sahel, est-ce que il y a du basique en prévention? Est-ce qu'il y a de la prévention pour les troubles de la vision en général?
Alors la prévention, c'est évidemment les accidents. D'abord les accidents domestiques et les accidents de la route qui sont une cause encore importante de baisse de vision. C'est la nutrition, donc avec tout ce qui est antioxydants et aussi les oméga 3 qui semblent aider un peu, mais il ne faut pas en faire la panacée bien entendu. Et certains pigments de filtration qui peuvent être pris dans l'alimentation, donc une alimentation équilibrée et saine. La protection contre la lumière dont nous avons parlé et puis le dépistage des pathologies. Alors surtout très très important chez l'enfant, les protéger du soleil puisqu'ils ne filtrent pas la lumière ni bleue ni ultraviolette avant l'âge de 10 ans, donc les protéger avec de bonnes lunettes filtrantes, et dépister aussi l'amblyopie, ce qu'on appelle l'œil paresseux. Il y a un certain nombre de personnes, il y a à peu près 3% des personnes qui ont un œil qui voit moins bien que l'autre parce qu'il n'est pas tout à fait aligné ou pour d'autres raisons, et si on ne fait pas travailler cet œil suffisamment tôt, il va rester faible toute la vie puisque c'est la partie du cerveau qui correspond à cet œil qui ne se sera pas développée. Donc il y a une prévention avec le dépistage précoce des troubles visuels de l'enfant.
Qu'est-ce que vous vous dites en tant que médecin devant le problème aveugle de naissance ou aveugle devenu aveugle ? Qu'est-ce que ça vous... Il y a une impossibilité d'avancer ?
Alors c'est un vrai débat. On a longtemps cru que l'aveugle de naissance ne pourrait pas réapprendre à voir. C'était le débat d'ailleurs de la lettre sur les aveugles de Diderot. En réalité, il y a aujourd'hui une expérimentation en situation réelle. Il y en a deux. Une en thérapie génique sur les maladies, sur les nécessités de l'enfant liées à une rétinopathie pigmentaire précoce. Mais surtout en Inde, il y a un immense programme qui vise à opérer de cataractes précocement des enfants qui sont aveugles. Et il y avait un article dans Le Monde en tout début d'année là-dessus où aujourd'hui il y a une possibilité de vérifier que les enfants ont en réalité une préconnexion du système. La carte topographique du monde est pré-câblée en fait au niveau du cerveau. Simplement, cette carte est affinée par l'expérience visuelle. Donc quand on restaure une sensation visuelle, la topographie, ce qu'on appelle la rétinotopie, la projection de l'espace sur le cerveau, préexiste chez chacun d'entre nous. C'est l'expérience visuelle qui va l'affiner, qui va en améliorer la résolution. Donc ça donne un espoir chez des enfants chez des personnes qui n'ont jamais vu, au moins d'avoir une topographie correcte après stimulation de leur système visuel.
Il y a encore beaucoup de choses à voir et à revoir, sans jeu de mots, autour de ce thème de la vision. Merci José-Alain Sahel d'être venu avec nous. Merci. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau et Clément Daté à la prise de son. Vous avez écouté cette émission en collaboration avec le Quotidien du Médecin et vous pouvez retrouver la réponse aux questions sur le site lequotidiendumedecin.fr. Mais vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le tout nouveau site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure.